un journal présenté ce soir par Ezequiel Fernandez. Bonsoir Ezequiel.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous. Le gouvernement libanais jette l'éponge à Saint-Diab. Le Premier ministre s'apprête à annoncer la démission de l'équipe en place, mais cela ne suffira pas à effacer la colère populaire 6 jours après l'explosion dans le port de Beyrouth. En Biélorussie, les opposants au président réélu hier, Alexandre Loukachenko, se préparent à redescendre dans la rue ce soir, au lendemain de manifestations durement réprimées à Minsk, la capitale, correspondance de Claude Brouillot. 7 membres de l'organisation humanitaire ACTED, dont 6 Français tués hier au Niger, à quelques dizaines de kilomètres à peine de la capitale Niamey, la présidente de l'ONG, Marie-Pierre Calais, a tenu une conférence de presse cet après-midi. Vous l'entendrez également dans ce journal. Le couvercle chinois se referme sur Hong Kong. 10 personnalités pro-démocrates arrêtées aujourd'hui, dont le magnat de la presse Jimmy Lai. Nous retrouverons Florence de Changi à Hong Kong. Paris, à l'heure du masque obligatoire depuis ce matin dans les lieux les plus fréquentés. Encore faut-il savoir où il est désormais interdit de circuler à visage découvert. Reportage sur les rives du canal Saint-Martin. Contre-champ sur l'Italie, pays qui fut le premier et le plus durement frappé, vous en souvenez, par le coronavirus en Europe. Aujourd'hui, il s'en sort mieux que les autres en termes de taux de contamination. Bruce de Galzin nous dira pourquoi en fin de journal. Dans une demi-heure, Hassan Diab, le Premier ministre libanais, va annoncer la démission de son gouvernement. Il faut dire que 4 ministres avaient déjà démissionné. Dernier en date aujourd'hui, celui des finances. 6 jours après la terrible explosion qui a fait au moins 160 morts à Beyrouth, le divorce est consommé entre le peuple libanais et sa classe dirigeante. Les manifestants de ce week-end réclamaient le grand ménage. Eh bien aujourd'hui, Christian Chéneau débute une nouvelle période de grande incertitude politique au Liban sur fond d'impuissance chronique.
La situation du Premier ministre libanais était devenue intenable. Il était affaibli par 4 démissions, notamment celle des ministres de l'Information et de l'Environnement. Son cabinet prenait l'eau de toutes parts. Et puis, il y a une rue chauffée à blanc par l'explosion du port de Beyrouth, des Libanais traumatisés qui crient leur colère et leur dégoût face à l'incurie des services de l'État. Les manifestants avaient pris d'assaut le ministère des Affaires étrangères, celui de l'énergie ou encore le siège de l'Association des banques libanaises, installant des potences sur la place des Martyrs. Face à cette tempête populaire, Hassan Diab, en poste depuis janvier dernier, a cru pouvoir faire baisser la tension en proposant des élections législatives anticipées. Mais beaucoup de Libanais ont vu dans cette proposition une manœuvre dilatoire pour gagner du temps, d'autant que la loi électorale a été taillée sur mesure pour reconduire de scrutin en scrutin les mêmes caciques politiques et chefs de clan. La communauté internationale, notamment lors de la conférence des donateurs, avait conditionné l'aide structurelle au Liban à des réformes profondes et sincères qui avaient été promises il y a 2 ans lors de la conférence Cèdre. Une façon de mettre les autorités libanaises et son gouvernement au pied du mur devant tous ces vents contraires, c'était mission impossible pour Hassan Diab.
Le dernier bilan de l'explosion de Beyrouth il y a 6 jours fait état en ce moment de 160 morts et plus de 6000 blessés, je vous le rappelle. Je vous parlais à propos du Liban du divorce entre le peuple et ses dirigeants, eh bien, c'est à peu près le même scénario qui se déroule, mais en Biélorussie. Aujourd'hui, la France réclame le respect des libertés fondamentales et des droits démocratiques. Au lendemain de la victoire très contestée du président Alexandre Loukachenko, réélu pour un 6e mandat, la commission électorale centrale a annoncé, quoi qu'il en soit ce matin, que selon des résultats provisoires, le président sortant avait recueilli 80% des suffrages contre 9,9% des voix pour sa principale opposante, Svetlana Tikhanovskaya. Le calme est revenu à Minsk, la capitale, et dans d'autres grandes villes, après des manifestations durement réprimées. On dénombre 3000 arrestations, des dizaines de blessés. Mais un calme très provisoire puisque les opposants ont prévu dès ce soir, Claude Brouillot, de se retrouver dans la rue.
Les appels au rassemblement ce soir à nouveau dans la capitale biélorusse n'émanent pas de Svetlana Tikhanovskaya qui évite surtout de se surexposer. La principale candidate de l'opposition se bat d'abord sur le terrain juridique et politique en demandant surtout que la victoire d'Alexandre Loukachenko soit invalidée. Elle va même plus loin en invitant le président biélorusse à réfléchir comment lui céder le pouvoir pacifiquement. Référence évidemment aux violences commises par les forces de l'ordre la nuit dernière, mais également aux 3000 arrestations arbitraires dirigées contre ses sympathisants. Avec les appels à manifester de ce soir, évidemment interdits, se pose la question du leadership du mouvement dans la rue, jusqu'où ces rassemblements peuvent conduire sans un minimum de coordination et face à des forces anti-émeutes très organisées qui quadrillent les grandes artères de Minsk. La menace pour Alexandre Loukachenko est peut-être encore plus grande si les mots d'ordre de grève lancés pour demain sont largement suivis, avec le risque à chaque fois pour tous ses participants de devoir faire face à une répression plus grande encore.
Si l'Union européenne ne se prive pas de douter de la validité du scrutin d'hier en Biélorussie, Vladimir Poutine, lui, s'est fendu d'un télégramme de félicitations à son homologue, en principe réélu hier démocratiquement. 3 ans de prison ferme. C'est la peine prononcée ce matin contre le journaliste Khaled Drareni par la justice algérienne. Il est condamné pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Reporters sans frontières dénonce une persécution judiciaire. Khaled Drareni a été jugé pour avoir couvert, tout simplement, une manifestation anti-régime. Ses deux co-accusés figurent du mouvement de contestation contre le régime et copent, quant à eux, de 2 ans, dont 4 mois fermes. Ils ne retourneront pas en prison puisque leur peine a été couverte par la détention provisoire. Au Niger, les forces armées appuyées par des unités de la force Barkhane tentent toujours, alors qu'il est, de retrouver la trace des auteurs de l'attaque qui a coûté la vie hier à 8 personnes, dont 6 Français, membres de l'ONG humanitaire Acted, à 60 kilomètres seulement de la capitale Niamey. 4 femmes, 4 hommes âgés de 25 à 50 ans, d'après Acted, qui a tenu tout à l'heure une conférence de presse en début d'après-midi. L'ONG déplore que la communauté internationale laisse les humanitaires seuls face aux violences. Marie-Pierre Calais, cofondatrice, directrice générale d'Acted, est revenue cet après-midi au cours d'une conférence de presse, donc, sur les circonstances, et au tout du moins ce que l'on en sait, de cette attaque particulièrement sanglante.
À 8h30 hier, 7 de nos staffs sont partis dans le parc de Kouré. À 9h30, ils ont confirmé, selon les protocoles habituels, leur arrivée au parc. Peut-être il est à noter qu'à Niamey, comme à Kouré, ainsi que sur la route entre Niamey et Kouré, ce sont les seules zones jaunes du Niger. C'est-à-dire, selon la classification du MAE, en vigilance renforcée. C'est les seules zones jaunes du pays, toutes les autres étant orange ou rouge. En début d'après-midi, nous avons été informés par les gardes forestiers qu'un véhicule d'Acted avait été retrouvé calciné. En liaison avec l'ambassade, un véhicule Barkhane et une ambulance ont été envoyés sur place. Ils ont trouvé 8 corps et les ont rapatriés à l'Institut médico-légal de Niamey dans la soirée. Pour identification. C'est un drame absolument sans précédent à Acted. C'est un acte barbare qui est révoltant.
Des propos recueillis par Valérie Corva pour France Culture. Acted qui va déposer une plainte à Paris pour tenter d'éclaircir les circonstances précises de cette attaque. Demain matin, Emmanuel Macron présidera en visioconférence un double conseil de défense. Le premier justement consacré à la situation au Niger, le second à la pandémie de Covid-19. À Hong Kong, les autorités parlent maintenant de 10 personnes arrêtées aujourd'hui, âgées de 23 à 72 ans, accusées de collusion avec des forces étrangères, un crime couvert, bien sûr, par la nouvelle loi de sécurité nationale, mise au point par Pékin et promulguée à Hong Kong le 30 juin dernier. Une loi qui prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Parmi les figures de mouvements pro-démocrates interpellées, il y a l'étudiante Agnès Cho et le patron de presse Jimmy Lai, ainsi que 2 de ses enfants, plusieurs cadres également de son groupe de presse d'opposition Next Digital. Les réactions sur place avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy.
200 policiers qui envahissent la rédaction du Apple Daily. Les images filmées et retransmises en direct en ligne ont choqué, comme si elles signaient la fin d'une liberté essentielle pour les Hongkongais, la liberté d'expression, qu'aucun titre n'incarnait mieux que le Apple Daily, éternel détracteur du gouvernement et du Parti communiste chinois. Surtout que le fondateur du célèbre titre, Jimmy Lai, 71 ans, force le respect de beaucoup de Hongkongais, non seulement par son histoire exceptionnelle, puisqu'il est arrivé très pauvre et a connu un succès extraordinaire dans les affaires, mais aussi par son courage et même sa témérité dans son acharnement à tenir tête à Pékin. Chris Young est le président de l'Association des journalistes de Hong Kong.
Je n'ai jamais vu une perquisition de police d'une telle ampleur, très envahissante, très intimidante. C'est effrayant pour les journalistes. Hong Kong n'a jamais rien connu de tel. Nous savions que cela pouvait arriver dans des villes ou des pays sous-développés où il n'y a pas de liberté de la presse ni de respect pour les droits de l'homme. Mais que cela arrive aujourd'hui à Hong Kong, c'est une journée très triste pour les médias de Hong Kong.
Les Hongkongais ont réagi en achetant tous les journaux du groupe disponibles en kiosque et ont promis d'en faire autant demain, même si Apple Daily ne publiait que des pages blanches. À la bourse, après avoir perdu jusqu'à 18% dans la session du matin, l'action du groupe a rebondi de plus de 340% suite à un mouvement d'achat de solidarité pour soutenir le groupe dans cet épisode très grave, preuve de sa popularité au sein de la population.
Les précisions de Florence de Changy à Hong Kong. Sans surprise, la Chine salue quant à elle l'arrestation de Jimmy Lai, l'accusant d'être un agitateur à la solde de puissances étrangères cherchant à saper la sécurité nationale. L'Union européenne dénonce quant à elle l'utilisation de la loi sur la sécurité imposée par Pékin à Hong Kong pour étouffer, dit-elle, la liberté d'expression. Ça tombe très mal. En pleine canicule, depuis ce matin, Paris instaure le port du masque obligatoire dans les quartiers les plus fréquentés. Décision de la préfecture de police pour endiguer la hausse des cas de contamination à la Covid-19. La capitale ne fait d'ailleurs que suivre l'exemple d'autres grandes villes en France. Cette obligation concerne aussi, d'ailleurs, de nombreuses communes de la région parisienne. Le problème, c'est de savoir quelles sont les rues, les quartiers concernés, en tout une centaine dans la capitale. Il est bien difficile de s'y retrouver, comme ont pu le constater tout à l'heure Margot Siffer et Pauline Joss sur les bords du canal Saint-Martin.
Quelques heures après l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure, il n'y a pas foule sur les bords du canal et rares sont les visages masqués. Aucune affiche n'est là pour alerter les passants. Jean et son ami Unane ont un masque, mais dans leur poche.
Je viens de l'apprendre en fait là.
Si, si, moi je savais.
Mais là j'ai oublié parce qu'en plus il fait chaud et voilà, on n'a pas pensé quoi.
Aurélien est lui bien au courant de cette obligation. Pour autant, la cartographie décidée par la ville de Paris et la préfecture l'interroge.
Je trouve ça idiot parce que comme vous le voyez, il n'y a personne dans les rues et on est en plein mois d'août. À la limite, à la rentrée de septembre, pourquoi pas, on aurait pu poser la question. Mais là c'est vraiment, à mon sens, c'est idiot. Et puis là on est sur les bords du canal Saint-Martin, mais je suis allé dans cette rue, mais je ne sais pas si le port du masque est obligatoire. Je sais qu'ici, là, ça n'est pas obligatoire. Puis rue des Vinaigriers, c'est de nouveau obligatoire. Enfin, la personne qui n'a pas l'arrêté préfectoral devant elle s'y perd, je pense.
Pour Alexia Amandoupa, cette nouvelle mesure doit devenir un réflexe et relève tout simplement du civisme.
Je pense que c'est pas si difficile de s'y retrouver finalement. Et ça peut même encourager à garder le masque même dans les zones où il y a moins d'affluence. C'est pour se sentir préparé aussi. Par exemple, là, si on s'est fait aborder dans la rue... On l'a tout de suite.
L'équipe municipale assure que l'accent sera d'abord mis sur la pédagogie avant de sanctionner les réfractaires.
Et certains s'interrogent effectivement sur cette cartographie du masque à Paris. Pourquoi, par exemple, les Champs-Élysées, pourtant haut lieu touristique très fréquenté, échappent-ils à l'obligation de se balader masqué? Question pour l'instant sans réponse. Si vous êtes contrôlé de toute façon à visage découvert dans un secteur où le port du masque est obligatoire, vous risquez, je vous rappelle, une amende de 135 euros. Cette extension de l'obligation de porter le masque à Paris illustre l'inquiétude des pouvoirs publics face à la circulation de la pandémie et l'augmentation constatée du nombre de contaminations un peu partout en Europe. Partout, sauf en Italie, qui a pourtant été le pays le plus touché à l'origine. Ces 15 derniers jours, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, sur 100 000 habitants, il n'y avait que 5,7 cas en Italie, contre par exemple 8,4 en Allemagne ou encore 19 en France et plus de 50 en Espagne. Alors question, pourquoi l'Italie fait-elle mieux que les autres en ce moment? Élément de réponse avec notre correspondant à Rome, Bruce de Calzin.
Beaucoup d'Italiens gardent en tête de très mauvais souvenirs, comme cette image forte qui hante encore Giancarlo, originaire du nord du pays.
C'était vraiment dramatique. On se souvient tous de ces cercueils emportés dans des camions militaires à Bergame. Il y a eu des centaines, des milliers de morts. Chacun de nous a un parent, un ami proche qui a vécu cela. Ça nous a donné le sens des responsabilités.
Et selon Giancarlo, c'est plutôt paradoxal, car les Italiens ne sont pas habitués à respecter les règles. Mais aujourd'hui encore, ils portent un masque dans tous les lieux clos et même dehors pour Lisa, étudiante de 19 ans dans le Veneto, qui garde aussi ses distances le soir dans les bars.
Oui, je fais attention, je connais mes amis, nous sommes toujours ensemble et je sais qu'il n'y a pas de cas dans nos familles. Mais si je suis avec des gens que je connais moins, je suis distante.
Tous les jeunes ne respectent pas ainsi les règles, alors le ministre de la Santé rappelle que l'âge moyen de contagion est désormais de 40 ans contre 60 il y a moins de 2 mois, et Roberto Speranza, malgré les bons chiffres, est très prudent.
Nous sommes sortis de la tempête et ça c'est la vérité, mais nous ne sommes pas encore dans un port sûr.
Car les Italiens s'inquiètent des cas importés, des touristes ou les Italiens eux-mêmes qui reviennent de vacances.
Depuis à propos de la Covid en Italie, un nouveau scandale vient d'éclater. 5 députés italiens ont demandé en effet à bénéficier d'un bonus Covid de 600 euros par mois, une aide apportée en principe aux personnes en grande difficulté financière. Les députés italiens touchent tout de même près de 13 000 euros net par mois. Dernière personnalité en date a annoncé avoir été diagnostiqué positif au coronavirus. Il s'agit de l'acteur espagnol Antonio Banderas. Il le fait d'ailleurs aujourd'hui le jour de son 60e anniversaire. Il précise par ailleurs qu'il se porte relativement bien, ce qui ne manque pas de revêtir une certaine ironie bien sûr concernant le comédien qui joua Zorro, le vengeur masqué. Le dessinateur et scénariste de bande dessinée Laurent Vicomte, auteur notamment des séries Balade au bout du monde et Sasmira, vient de décéder à l'âge de 64 ans. On vient tout juste de l'apprendre. Il avait reçu de nombreux prix, notamment à Angoulême au Festival mondial de la bande dessinée. Laurent Vicomte, disparu à l'âge de 64 ans. Le temps que j'évoquais à l'instant à propos du masque, il demeurera caniculaire. Demain, orageux sur l'ensemble du pays, instable notamment sur l'ouest. Les températures minimales resteront élevées cette nuit jusqu'à 22 degrés à certains endroits. Les températures maximales demain après-midi atteindront de 29 à 37 degrés sur l'ensemble du pays, sauf en Bretagne et sur le golfe du Lion. Fin de ce journal, réalisé avec François-Charles Demergue.